Dan Gagnon pour le podcast tout seul qui va encore une fois mal porter son nom aujourd'hui. C'est le 71, donc le 71, et je reçois Myriam Leroy. Bonjour Myriam.
Mais bonjour Dan.
Ça me fait vachement plaisir de te recevoir pour plein de raisons parce que ben, tu es quelqu'un que j'apprécie. Et comment est-ce que tu veux qu'on te présente? Tu as fait beaucoup de choses et je me demande toujours comment tu veux qu'on te présente. Moi, on me présentait toujours de la même manière et j'aimais pas. Donc...
Et on te présentait comment?
C'est le plus canadien des Belges, le plus belge
oui.
des Canadiens.
Oui. Quelle horreur. Non, ben moi j'aime bien dire que je suis autrice parce que je trouve que ça recoupe et regroupe toutes mes activités. Donc voilà. Je dis autrice, en plus il y a le trice d'autrice qui est un peu politique qui fait crisser les oreilles de plein de gens, donc ça me fait plaisir aussi.
Pourquoi on dit d'ailleurs autrice et pas auteur? Au Québec, on dit auteur depuis des années. Et j'ai vu que c'est ça, que c'était très politique de mettre « trice » au lieu de « teure ». Et j'avoue que je ne sais pas pourquoi.
Mais parce que le « trice » s'entend, que le « teure » ne s'entend pas vraiment. Et que donc, si tu as vraiment envie de marquer le coup sur la féminisation du métier, bah, tu dis « trice », quoi. Et puis, je crois ça aussi que ça a existé au XVIIe siècle. On disait « autrice », comme on disait d'autres mots en « trice », qui n'étaient pas déshonorants de féminiser. Donc, le mot existait, donc on l'utilise et voilà, on l'utilise parce qu'il s'entend aussi.
C'est quelque chose, moi, qui me fascine, les gens qui sont contre l'écriture inclusive. Il y a deux arguments que je ne comprends pas. Le premier... c'est quand même de dire que c'est moche.
C'est incroyable, j'adore. Les gens disent « c'est moche ». Oui, oui, c'est cela.
Oui, mais comme si...
genre, les arbitres des élégances, des tu vois.
Oui, oui, exactement. Genre, c'est moche. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est ridicule.
Ben oui.
Mais dès que quelque chose est nouveau, il y a une espèce de rejet. Et l'autre truc, moi, qui me fait rigoler à fond, c'est le « oui, mais tu comprends, ça complique la langue et c'est pas évident, c'est pas accessible ». Putain, mais de où vous débarquez en croyant que la langue française, avant ça,
était facile.
Hyper simple.
Ouais. Et puis, il y a une façon très simple de tout simplifier. Et c'est ce que Martin Winkler, qui est un auteur français qui vit au Québec et qui enseigne, je pense à McGill, lui, il écrit ses livres « Au féminin l'emporte ». Et je trouve ça génial. Mais il l'annonce pas en plus. Il le fait, c'est tout. Donc, tous les lecteurs sont des lectrices. Les participants, c'est des participantes. Quel que soit, voilà. Et je trouve que c'est rigolo et étrangement, ça ne fait pas scandale. Peut-être parce qu'on ne le sait pas beaucoup.
Je voulais parler de trois choses avec toi. Glisser au passage les deux livres que tu as écrits, les romans que j'ai absolument adorés. Et non, pas seulement les passages où tu as volé des phrases que je t'avais racontées à l'époque. Vraiment, l'ensemble du roman, je trouve très bien. c'est une blague, évidemment. Mais voilà, donc, Ariane, j'avais adoré. Donc, l'histoire de... Ben, je te laisse raconter l'histoire, en fait. C'est con si moi je l'ai dit.
Oui, en même temps, c'est chiant de pitcher soi-même son livre. Donc,
OK, bon, en gros, c'est comme une histoire d'amour malsaine où jeune fille cherche appartement, mais en mode amitié, et c'était hyper puissant. Et je me souviendrai, je crois, toute ma vie de la réaction d'une personne de ton entourage. Tu en as parlé, je crois, quelques fois en interview sur Internet. Quelqu'un qui disait qu'il n'avait pas accroché à cause des protagonistes.
Ah oui, mais tu sais, on m'a tellement tout dit par rapport à ce livre qui a été reçu d'une très drôle de manière... par les gens qui ne s'attendaient pas à lire ça. On m'a même, à la Foire du Livre, offert un recueil de poésie pour mettre du soleil dans mon âme noire. Parce qu'il fallait avoir l'âme noire pour écrire un livre pareil.
Non, mais Stephen King doit avoir des recueils et des recueils de poésie chez lui.
Oui, non, c'était mon très... Ouais, la réception était très... assez violente quand même. C'était pas une partie de plaisir, la promo. Enfin, non, en fait. La promo, c'est jamais une partie de plaisir, je trouve. Et puis, non, c'était pas très gay, en fait.
C'est vrai. Pourquoi? Parce que t'étais une femme et tu racontais pas des jolies histoires?
Ouais, ça m'a été beaucoup reproché, hein, de la vulgarité dans la bouche de ces jeunes filles, côté choquant de l'histoire, la violence. Et alors que moi, je trouve que c'est à l'image de la vie, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir poussé le curseur de la violence particulièrement haut par rapport à la réalité. J'étais très étonnée parce que je trouve que les gens sont quand même habitués à la violence. Pourquoi celle-là leur paraît tout à coup obscène? Ça m'a beaucoup surprise.
Mais je pense que malheureusement, la réponse, tu l'as déjà donnée, quoi. Oui. Dans la bouche de ces jeunes filles.
Je pense qu'il doit y avoir de ça aussi, mais... Je sais pas, faudrait voir comment Baise-moi de Virginie Despentes. Je me compare pas du tout à Virginie Despentes, hein, je n'oserais pas, mais où elle c'est d'une violence insoutenable et inouïe. Bon, ça, elle a été reçue, mais c'était dans les années 90 avec du goudron et des plumes. Mais j'ai pas l'impression que j'ai été beaucoup moins mal reçue avec Ariane, alors que j'estime que c'est la violence des sentiments, la cruauté, mais c'est pas. C'est, pour moi, ça reste assez soft, quoi.
Et je me souviens que tu avais raconté, quelqu'un dit qu'il n'avait pas pu s'identifier.
Ah oui, c'est génial.
L'histoire lui était passée au-dessus de la tête parce que.
Parce que c'était, tu comprends, deux jeunes filles. C'est pas, enfin, voilà, comment tu veux que je m'identifie? J'ai fait, ah oui, bien sûr. Et puis je réfléchis, je fais, hein? Mais non, pas bien sûr. Je sais pas, moi j'ai lu des Tintins, des Spirou, et que des œuvres écrites par des mecs avec des personnages masculins dans tous les sens toute ma vie. J'ai commencé que très récemment à lire des livres avec des protagonistes femmes.
Écrites par des femmes, parce qu'il n'y a pas qu'à des femmes écrites par des hommes.
Déjà. Pas tant que ça, je crois que ça les intéresse pas tant que ça en fait, hein. D'écrire des femmes ou alors des femmes fantasmées, les femmes qui n'ont pas voulu d'eux pendant leur adolescence et dont ils ne cessent de ressasser le souvenir, ça peut-être, mais toute ma vie, je suis une grande lectrice depuis vraiment très 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 jeune et je ne m'étais jamais dit, oh tiens, Tintin, je ne sais pas m'identifier, non, ça jamais. Et c'est intéressant parce que ça a questionné toute ma consommation est un vilain mot, mais toute ma consommation de livres, de films, je me suis rendu compte que j'avais lu pratiquement que des livres d'hommes, vu des films d'hommes, etc. Et ce constat posé, j'ai fait comme Alice Coffin, c'est que j'ai essayé non pas de les éradiquer, parce que le mot est quand même pas génial, mais elle dit pas éradiquer, elle dit éliminer provisoirement. Donc moi, j'élimine pas, mais je vais vraiment beaucoup plus volontiers vers des livres de femmes. Et les films de femmes, ça c'est encore plus dur à trouver parce que c'est pour toute une série de raisons, notamment économiques. Il n'y a pas énormément de femmes réalisatrices, hélas, et celles qui y parviennent ne sont pas beaucoup mises en valeur. Mais voilà, je lis beaucoup, beaucoup de livres de femmes. Et là, je suis en train de lire Camille Laurence, un livre qui s'appelle Fille et qui est vraiment génial et dont on n'a pas du tout assez parlé. Qui est sorti à la
rentrée.
C'est
quoi la ou une des plus grosses différences que tu peux observer depuis que tu portes attention à ce truc-là? Encore une fois, quand tu vois, c'est difficile de ne plus voir.
Une fois
que tu as vu, Et ce truc-là, moi, c'est via Alice Coffin aussi, je me suis rendu compte, le côté du « Oh mon Dieu, c'est toujours dans le même prisme ». Et bizarrement, Reese Witherspoon aussi, qui fait un magnifique travail avec le cinéma.
De productrice, hein.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et je sais pas si t'avais vu, il y a un montage d'elle, justement, où on voit son œuvre féministe, mais ce côté féministe de son action. Et elle dit ce qui l'avait le plus choqué. Elle dit, un jour, je regarde un film, puis il y a une espèce de catastrophe. Et la femme regarde le mec, puis dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Et elle dit, ça m'a tellement choqué. Elle dit, as-tu déjà vu une seule fois dans la vie une femme qui avait pas un plan?
C'est
une
ça,
femme qui,
mais oui.
Quand c'est la merde, se retourne vers l'homme en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire?
C'est
t'as
vrai.
Une chier d'hommes qui sont
c'est
pas
vrai.
Capables de s'organiser pour faire du ménage dans la maison, mais quand c'est la catastrophe, c'est vers eux que je me retournerai pour pouvoir sauver ma vie. Elle dit, putain, encore un truc écrit par un homme, des couilles, je me reconnais pas dans ces personnages-là qui n'ont rien à voir avec le réel.
Et puis, c'est pas juste. Oui, c'est ça, ça n'a rien à voir avec le réel. Donc, moi, quand j'aime bien lire. Des choses justes, quoi. Donc, autant le... voilà, autant le faire. Et moi, ouais, je pense que...
Et ça montre tellement le mépris qu'il y a pour une partie de la population. Et je mets ça en lien avec, quand on va parler d'un groupe de musique, en le vraiment balayant du revers de la main en disant que c'est un groupe à minette.
Ouais, ouais, ouais.
Comme si le goût des adolescentes était moins bon que
était
le
médiocre,
goût d'un...
Mais bien sûr.
D'un vieil homme de 45
oui,
ans.
Tout à fait.
Des mêmes hommes de 45, 50 ou 60 ans qui aujourd'hui encensent les Beatles, qui étaient peut-être le groupe à minette original,
ben
dans
oui,
l'absolu, si tu veux, poursuivre leur logique. Enfin bref. Et après, tu as fait Les Yeux Rouges. Et ceux qui n'ont jamais lu les Yeux Rouges, pour moi, doivent le lire, même si vous n'aimez pas l'histoire. Vous allez être fasciné par ce livre parce que la connexion entre le processus narratif et le contenu est. Relève littéralement du génie et je le dis malgré le fait que je te déteste mais non mais ça relève du génie. C'est rare que tu vois une forme qui sert autant le fond que l'inverse. Et j'avais une question par rapport à ce livre. Donc c'est l'histoire de quelqu'un qui répond à un message un jour sur Facebook et puis après ça harcèlement, voilà,
ouais.
Si je veux résumer de manière
voilà.
Vraiment
c'est très succinct, mais c'est ça.
Est-ce que c'était la première, dans ta première version, il y avait déjà cette forme? Comment ça s'est passé pour créer cette combinaison absolument géniale des deux?
Je voulais écrire un livre sur le harcèlement depuis longtemps, parce que c'était ma réalité depuis longtemps, et que tout le monde s'en foutait depuis longtemps. Et je me suis dit, il n'y a pas de meilleur sujet de livre qu'un truc qui me prend tout mon temps, toute mon énergie, et dont tout le monde se fout, et que j'ai besoin de porter à la connaissance d'autrui. Et puis je trouvais que, voilà, c'est toujours intéressant, en fait, à lire une histoire de harcèlement, de violence psychologique. Moi, j'aime lire ça, donc j'avais envie de l'écrire, parce que je crois que le lecteur peut quand même prendre un certain plaisir, malgré tout, même si c'est bizarre de dire du plaisir par rapport à ce genre de choses. Quand même, du plaisir, ouais. À travers une histoire de prédation, en fait. Et donc, j'essaye depuis des années d'écrire un livre là-dessus, basé toujours sur ma propre histoire, parce que je trouve que ma propre histoire est suffisamment intéressante pour donner un bon matériau romanesque. Et j'ai essayé de l'écrire dans tous les sens, et je trouvais à chaque fois qu'il y avait une sorte de premier degré dérangeant, parfois une incontinence émotionnelle que je trouvais un peu gênante, je ne trouvais pas le bon bout. Donc j'ai des débuts de yeux rouges plein mes tiroirs, et puis m'est tombé, je ne sais pas, du ciel, sur un transat en vacances, en réfléchissant. J'étais complètement bloquée. Et puis cette idée, en fait, de faire du discours indirect libre, où la narratrice ne produit que du discours sur elle, en fait. Elle ne produit rien. En fait, on n'a jamais accès à son intériorité. Elle ne fait que relayer le regard des autres sur elle.
Et ça, c'était incroyable pour moi, parce qu'elle est dépossédée de sa propre histoire.
Ouais, ouais.
Et c'est comme ça, j'imagine, que tu te sentais.
Tout à fait.
Et voilà.
Mais ça a été le fruit d'une intense et longue réflexion. Ça a pris des années avant de trouver cette idée. Mais tant que je ne l'avais pas, en fait, je n'avais pas envie d'aller... Enfin, je n'avais pas le fuel pour aller très, très loin dans l'histoire, parce que je sentais que ce n'était pas comme ça que je vais la raconter. Et une fois que j'ai eu cette idée, ça a tout débloqué et le roman a été écrit très, très vite.
Ça a été très, très vite, après des années.
Oui, c'est ça.
Bloqué,
oui,
quoi.
Oui, oui.
Là-bas, vieille phrase, mon roman est terminé, il ne me reste plus qu'à l'écrire.
Ah oui, c'est ça. Combien de temps tu as mis? 35 ans à l'écrire, mais 6 mois sur ma feuille.
Et j'ai cru comprendre, corrige-moi si je me trompe, que la réédition de poche, qui est sortie il y a quelques semaines, voire quelques mois, avait peut-être plus de succès que la sortie originale l'année dernière?
Alors, j'en sais rien, parce que je n'ai pas de chiffres pour le poche, mais en tout cas, on m'en parle beaucoup et quasi plus que quand le grand format est sorti. Je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai été interviewée dans un podcast, super podcast très écouté, qui s'appelle La Poudre, et que ça a donné une visibilité au livre et à ce que j'écris, aux gens qui n'avaient jamais entendu parler de moi. Et je pense que je dois quand même... Ouais, je dois quand même... Les yeux rouges version poche doivent beaucoup, à mon avis, à cette émission.
Je crois que c'est ça. C'est pour ça que t'es pote avec Lorraine Bastide. Je me demandais pourquoi il y avait des photos de toi avec elle quand t'étais venue à Bruxelles et tout ça.
Ouais.
Ouais, qui explique. J'ai adoré son livre Présente aussi.
Oui, hein,
forcément.
Futur classique.
Donc les deux livres que t'as écrits sont sur des choses qui t'ont touché de très très proche, des choses que t'as vécues de plus ou moins.
Ouais,
toi,
ouais.
C'est plus ou moins autobiographique.
C'est de l'autofiction. Disons que je pars de moi pour écrire quelque chose qui, malgré tout, est quand même une fiction, parce qu'il y a une mise en scène, il y a des personnages que j'ai inventés, je ne respecte pas la chronologie, et puis surtout, je n'ai pas autant de souvenirs. Enfin, mes souvenirs ne sont pas du tout aussi précis, donc je suis obligée quand même un peu de les inventer.
Est-ce que c'est une décision que tu as prise pour ta carrière d'autrice en général, ou est-ce que c'est juste ces livres-là, c'est le prochain, tu veux faire un conte de Noël, tu veux faire un conte de Noël et puis fuck it?
Oui, non, je n'ai pas pris de décision, mais je suis en train de travailler sur mon troisième livre et c'est vraiment beaucoup plus fictionnel et j'ai l'impression que, en fait, que tant que tout enfin, j'ai essayé de le mettre en mots, mais c'est un peu confus. Il y a encore tant de choses qu'on n'a pas dites sur la vraie vie des femmes. Est-ce que c'est bien le moment de déjà passer à quelque chose d'inventé? Enfin, tant que toute la vérité n'aura pas été exposée. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être plus utile en racontant quelque chose qui est vraiment en prise avec le réel que d'inventer une histoire. Mais il y a des gens qui font des histoires inventées et qui sont voilà, qui ont une utilité, qui ont une charge politique importante, mais moi je faisais jusqu'ici dans l'autofiction, je me demande même si je vais pas me tourner de plus en plus vers la non-fiction. C'est pour autant que la non-fiction existe, mais oui, ça m'intéresserait quoi. Donc c'est cette fiction que j'ai sur le feu, je sais pas si je vais la poursuivre.
C'est intéressant, je trouve ce que tu dis aussi. Un des vecteurs les plus importants pour toi a l'air d'être donc avoir une utilité.
Oui, je pense. C'est difficile à dire. En tout cas, je sais que j'ai envie d'aller explorer les tabous d'une société parce que ça m'excite, parce que ça m'intéresse et parce que je trouve ça ridicule, toutes ces choses qui ne peuvent pas être dites. Qui ne sont pas dites parce qu'on en a honte, en fait. Peut-être que je tourne autour de la honte, il y a quelque chose autour de la honte. Le premier roman, il parlait quand même beaucoup de honte sociale. Les yeux rouges, bah, ça parle aussi beaucoup d'humiliation, quoi. On te met la honte.
Ouais, on va t'afficher, c'est ça.
Ouais, il y a peut-être quelque chose autour de
la menace de l'affichage.
Ouais.
Et quels sont les tabous qui t'intéressent pour l'instant?
Bah écoute, j'en sais trop rien, c'est ça le problème. C'est que vu que je suis justement dans une fiction, je suis pas sûre de savoir ce que je raconte ni ce que je veux raconter.
Pourquoi tu l'as commencé alors? Quel était le déclencheur de... J'imagine des idées, t'en as quand même 1000. Pourquoi t'as choisi d'écrire sur celle-là?
Parce que le sujet m'intéressait à ce moment-là, et il m'intéresse toujours, mais il m'obsède pas, et c'est pas vital pour moi d'écrire dessus. Et donc, en gros, j'écris sur une femme qui tombe enceinte et qui s'en rend compte trop tard pour avorter, et qui développe en fait une aversion totale pour cette chose qui s'arrime à son utérus. Et qui refuse toute forme de lien. Je pense que c'est ça, c'était le tabou de la maternité malheureuse, quoi, de la maternité non consentie, en fait, que j'avais envie d'explorer. Je ne sais pas si le monde est prêt à lire un livre avec une femme qui déteste son enfant.
Je peux te le dire, la réponse est non.
La réponse est non.
Mais la raison pour laquelle les gens ne sont pas prêts aussi, la seule manière que les gens puissent un jour être prêts, c'est d'avoir des gens qui font ce que tu fais.
Ouais.
Donc oui, c'est un tabou effectivement qui est super intéressant. Je veux par contre, parce que c'était la base, je crois d'ailleurs que ça va être en deux épisodes finalement ce podcast.
Ça devrait s'appeler La Digression, ton podcast.
Ma vie devrait s'appeler La Digression.
Tout à fait.
Et le point de départ, l'exemple auquel je voulais te parler de ça, c'était, j'ai vu tellement de fois cette année le côté « Ah, mais il y a plein de gens qui, avec ne serait-ce que le mouvement MeToo, le mouvement Black Lives Matter, plein de mouvements, de gens qui ils ont utilisé les réseaux sociaux pour le tribunal de Facebook pour régler ses comptes. C'est là que tu vois que ça ne tient pas la route. Si vraiment il y avait un dossier, les gens iraient à la justice. »
Oui, c'est ça, bien sûr.
Je me suis dit, tiens, demandons à quelqu'un qui est allé à la justice comment elle l'a vécu. Que les gens vont sur Internet.
Ah oui, il y a plein de bonnes raisons, en fait, hein, de se faire justice soi-même ou d'utiliser le tribunal, le tribunal populaire. Surtout que, je veux dire, MeToo, c'était pas... et même Balance ton porc, ça a quand même été que très rarement un mouvement qui a balancé des noms et qui a cloué au pilori des gens en attirant l'attention sur eux. C'était vraiment un partage d'expérience. Moi, j'ai vécu ça et on s'est rendu compte que c'était planétaire. Enfin, on s'était rendu compte, non, on le savait, évidemment. Mais c'est devenu inassumable pour la société.
En fait, la grosse différence que tu peux voir, c'est avant... Quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, quelqu'un se plaignait, il y avait toujours la possibilité d'étouffer l'affaire à un moment donné.
On parle toujours de la libération de la parole, mais c'est de la libération de l'ouïe, plutôt que la parole. Il me semble que ça a toujours... on a beaucoup témoigné, et à force d'indifférence...
Retournez voir l'interview de Tristan Bannon chez
Ardisson.
Allez voir ça, puis voilà.
Bah, ce qui est bien, entre guillemets, non, c'est pas bien, c'est pauvre Tristan Bannon, vraiment, ça a dû être terrible pour elle. Même à l'époque, je me rendais déjà compte que c'était terrible pour elle, alors que le paradigme n'avait pas changé. Mais on voit qu'aujourd'hui, en tout cas dans les médias, ce serait quand même difficile de dire, comme l'avait dit Ardisson à l'époque, j'adore quand Tristan Bannon faisait état des violences, de l'agression qu'elle avait subie de la part de DSK, quoi. Il y a quand même un tout petit... Toute petite moralisation, même si c'est pour la photo, même si c'est pour redorer son blason et faire une course à la vertu publiquement, il y a quand même des choses qui deviennent difficiles à assumer en public, et tant mieux.
difficile à ignorer aussi.
Ouais.
Parce que comme tu dis, la parole a toujours été là, mais elle était si facile à ignorer. Mmh. Et je trouve que ton expression, la libération de Louis, est tellement juste. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu, toi, comment ça s'est passé, ton histoire?
Alors oui, tu as dit que je me fais harceler, ou faisais harceler, je ne sais plus. Et je le dis, mais pas du tout pour te reprendre, juste parce que j'aimerais avoir aussi cet automatisme et éduquer les gens à l'avoir. C'est pas dire, paf, enfin, je suis harcelée, mais je ne me fais pas harceler. Enfin, il y a un truc de comme si je participais à mon propre harcèlement, si tu dis, tu te fais harceler. Enfin, il y a quelque chose de, je suis active dans cette situation. Alors, la psychologie systémique te dira qu'on est toujours actif dans une situation, même dans laquelle on est victime, qu'on est coupable d'être victime, mais bon, voilà, soit, voilà, on est harcelé, mais on ne se fait pas harceler, comme on ne se fait pas violer, mais on est violé, enfin, voilà, pour autant que le parallèle
entièrement raison.
Soit pas trop vaseux.
T'as entièrement raison, et les mots ont tellement de pouvoir, et les mots ont un sens, et c'est hyper, et ça part de là, donc t'as entièrement raison, et t'as très bien fait de me reprendre, et je te présente mes excuses.
Ah non, pas du tout, c'était pas du tout pour te reprendre, c'était juste pour te dire que j'avais découvert récemment qu'il valait mieux dire être violé, être harcelé, que se faire violer, se faire harceler. Voilà, quand on vit la situation, on se rend compte, pourquoi ? Parce qu'on a les oreilles qui sifflent, quoi, quand on dit, hein, quoi, tu te fais harceler, hein, mais je ne fais rien du tout, moi, monsieur.
D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il ne se passe rien
oui,
du tout, si j'avais le choix. Donc,
bon, alors, l'affaire n'est pas encore réglée et jugée devant les tribunaux, donc je dois rester
conditionnel.
Comme à conditionnel, oui, le harceleur présumé, qui m'a présumément traité de pute. Non, je vais juste pas rentrer dans les détails, mais après un certain nombre d'années à être insulté, diffamé, emmerdé via les réseaux sociaux, des articles de blog et différents supports, parce qu'il y a eu aussi le téléphone, enfin voilà, j'ai décidé de déposer plainte. Un jour de trop-plein. En fait, jusque-là, je m'étais dit, puisque c'est ce que tout le monde me disait en plus, enfin, je m'étais dit, faut passer au-dessus, tu serres la dent, tu fais le dos rond, le mec va se lasser.
Ignore.
Ouais. Et en fait, le mec ne s'est jamais lassé vraiment. Et un jour...
Et qu'est-ce que tu penses des gens... Excuse-moi de t'interrompre, c'est avant que tu ailles plus loin. Qu'est-ce que tu penses des gens qui te proposaient de juste... entre guillemets, juste ignorer?
Bah, alors, dans le livre, je les tourne un peu en ridicule. Le cœur grec de la société qui propose à la narratrice toujours, en gros, de fermer sa gueule, quoi. En fait, je pense que j'aurais dit exactement la même chose à une cible de harcèlement si je ne l'avais pas vécu moi-même, parce que la société n'a rien compris encore à ce type d'emmerde, et je fais partie de la société. Je ne suis pas encore tout à fait à la marge, donc je ne jette pas de pierre. Enfin, il y a des tas de situations que moi, je n'ai pas comprises, alors qu'elles étaient parfaitement décodables sous mes yeux, où c'est des consoeurs ou des amis qui vivaient des situations de harcèlement, et je ne me rendais pas compte des logiques à l'œuvre. Parce que tout est fait dans la société pour qu'on ne les voit pas, ces logiques à l'œuvre, et pour qu'on blâme la victime, et pour qu'on se dise soit que c'est pas grave, soit qu'elle l'a un peu cherché quand même. Donc si moi j'étais pas passée par là, je pense que j'aurais pas eu une réaction beaucoup plus intelligente que celle que j'énonce en fait dans le livre, c'est-à-dire que l'entourage de la narratrice lui dit pense à autre chose, quoi, en gros.
Je me souviens de t'avoir dit littéralement, c'est un bobo, si t'arrêtes de le gratter, il va disparaître, si tu le grattes, il va rester, et je me rends compte aujourd'hui de l'horreur de ce conseil, et encore une fois, je te présente mes excuses, mais maintenant que tu l'as vécu, que t'es dedans, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que c'est un mauvais conseil?
Bah, parce que tu souffres déjà de la situation et qu'on te dénie un peu le droit à cette souffrance. Tu souffres et on te dit que tu n'as pas vraiment de raison de souffrir. Donc tu te sens... Enfin, c'est de la double contrainte. T'es tiraillé quand même dans... C'est la double peine, quoi. Et en plus, ça te rappelle... appelle un peu à l'ordre, et l'ordre, c'est d'un peu fermer sa gueule, quoi, quand tu vis ce genre de truc, parce que c'est saoulant, parce que les gens n'ont pas envie d'entendre ça, et parce que les gens n'ont pas envie de voir, justement, la logique à l'œuvre là-dedans, qui est une logique de pure misogynie, de pur sexisme, quoi. Et en fait, on n'a pas envie de... Les gens n'ont pas envie, et moi la première, hein, de se rendre compte qu'on participe à une logique d'intimidation sexiste par son indifférence ou par sa participation plus ou moins amusée à ce qu'on croit être des rixes, des joutes, alors qu'en fait ce sont des agressions unilatérales. Donc oui, dire à la victime de penser à autre chose, si manifestement elle n'y parvient pas, parce que je me demande vraiment qui parvient à penser à autre chose quand en fait c'est ton quotidien d'être quotidiennement traîné dans la boue, diffamé, insulté de manière sexiste en plus, parce que qu'on dise de toi que ton travail est nul, que t'es quelqu'un de nul, bon, c'est pas oui, fondamentalement agréable, mais c'est pas révoltant, quoi. Mais toutes les insultes qui te réduisent à tes orifices, à ton corps, à ton genre, ça c'est quand même très 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 révoltant. C'est révoltant pour toi, c'est révoltant parce que quand on t'insulte comme ça, en fait, c'est toutes les femmes qu'on insulte. Enfin, chaque insulte sexiste insulte toutes les femmes, même si elle en vise une en particulier. Chaque insulte raciste insulte toutes les personnes racisées. Enfin, il y a un truc profondément heurtant pour soi et pour la collectivité, quoi.
Donc, tu dis, les gens refusent d'admettre l'existence du sexisme et ça ne t'a pas aidé du tout parce qu'on fait « Ouais, mais bon, c'est pas non plus... »
C'est quelques petites vannes un peu lourdes... ouais, enfin non, tu sais, moi j'ai autre chose à foutre de ma vie qu'aller déposer des plaintes, enfin moi j'ai envie de réussir ma vie, en fait j'ai envie de faire des choses intéressantes, j'ai envie d'écrire des livres, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de me cultiver, j'ai envie de joie. Donc à partir du moment où je décide que c'en est trop et que je vais prendre le chemin que j'ai pris, déposer plainte, dépenser mon argent pour ça, mon temps, ben, c'est que j'estime qu'il y a quand même quelque chose de très important qui se joue là et pas uniquement pour moi. Parce que si c'était juste pour moi, je pense que si j'avais peur, très peur pour ma sécurité, alors ouais, je l'aurais fait sans doute juste pour moi, mais là, c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose de vraiment de politique à défendre et de collectif qui se joue. Donc c'est, ça a été ça, moi, ma motivation et mon carburant.
Je me souviens à l'époque que tu te sentais très seule dans cette situation-là et dans ce combat-là. Est-ce que... aujourd'hui, tu sens que tu as plus d'alliés? Est-ce que tu sens que tu es moins seul? Est-ce que tu sens qu'il y a ne serait-ce que, sans avoir une solidarité, au minimum, une sororité qui s'est installée? Est-ce que, quand tu dis que tu le fais pour les autres, est-ce que tu sens que vous êtes plusieurs à le faire pour les autres? Ou c'est toujours...
Mais en fait, je le fais pour moi, à vivre dans un monde un peu plus débarrassé de ce type de nuisance, quoi. C'est pas juste pour neutraliser un type, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que je souhaiterais que si mon action en justice arrive à un terme heureux, que ce soit un signal, enfin quelque chose de protecteur pour les autres et donc pour moi aussi, quoi, en général, dans la vie.
On a maintenant un exemple du fait que c'est pas OK. Genre, à partir du moment où Harvey Weinstein peut mettre la main au cul de qui il veut, ben, les autres peuvent pas mettre la main au cul de qui ils veulent non plus.
Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment pour le symbole, quoi. C'est pour le signal que ça donne à tout le monde, quoi.
C'est quoi la démarche dont tu disais que tu l'as fait un jour de trop plein? Et c'est quoi la réalité de quelqu'un qui veut porter plainte?
Ouf, mais bon, c'est ça le problème aussi. Enfin, j'ouvrirai peut-être ce tiroir pas tout de suite. Enfin, si, je vais l'ouvrir maintenant. À refaire, je ne suis pas certaine que je redéposerai plainte parce que...
Sérieux?
Je ne m'attendais pas du tout à vivre ce qui m'attendait à la suite. Je ne m'attendais pas à la lenteur de la procédure. Je ne m'attendais pas à... Parce que dans les films, en fait, ou dans les livres, on a l'impression qu'une fois que la personne a déposé plainte, ben c'est le début de la victoire et que... en fait, non, c'est le début du chemin de croix, quoi. C'est terrible. Il faut vraiment être hyper solide pour aller jusqu'au bout, pour déposer plainte et pour essayer de traduire les auteurs de faits délictueux, en tout cas de ce genre de faits-là qui touchent à quelque chose de très intime et d'assez douloureux, quoi. Parce qu'on parle pas d'un cambriolage, d'un vol de bagnole. C'est quelque chose qui touche ton identité et c'est sensible. Ce sont des dossiers sensibles. Et la lenteur de la justice, son côté extrêmement impersonnel, c'est difficile à vivre.
Combien de temps, toi? Parce que tu dis que c'est encore en cours et ça a commencé.
Moi, j'ai déposé plainte en octobre, la première fois en octobre 2017. Et ça avait commencé en 2012. Donc après 5 ans, donc avant la prescription, parce que la prescription est de 5 ans, j'ai eu une sorte de, je sais pas, de piqûre, quoi. Où je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas possible. Je peux pas laisser passer ça, quoi. Il faut que j'aille déposer plainte. Et ma première plainte a été classée sans suite. La deuxième aussi, toujours pour les mêmes faits, parce qu'en fait, le type, il s'est jamais arrêté. Et là, moi, une fois que j'avais décidé de déposer plainte, il était hors de question que je dise, ah, ok, monsieur le parquet, ah, vous classez sans suite. D'accord, je comprends. Vous trouvez que les conséquences de poursuite au pénal seraient disproportionnées par rapport aux faits commis? D'accord. Non, c'est hors de question. Moi, si je dépose plainte, c'est que je suis au bout de ce que je peux supporter.
Et les conséquences pour moi, vous les jugez comment, c'est ça?
Hallucinant. Là, j'ai lu le courrier du parquet, je suis tombée de ma chaise, quoi. Les conséquences de poursuite au pénal seraient disproportionnées par rapport aux faits commis, mais enfin, tu n'as pas lu, en fait, ce que je t'ai envoyé, monsieur le procureur. Et donc, j'ai déposé plainte avec constitution de partie civile, et pour ça, il faut prendre un avocat, et ça coûte 250 €. Mais au moins, tu es sûr que ce ne sera pas directement classé, qu'il y aura un examen de ta requête. La justice est extrêmement lente. Donc ça, c'était la troisième plainte. Donc c'était en octobre 2017. Voilà, c'est ça. Ma première plainte, c'était
en Belgique, donc.
Ouais, c'était en février 2017. Puis ça a été classé sans suite, une deuxième fois. Et la plainte qui a finalement mobilisé une instruction et qui m'amènera un jour ou l'autre, Inch'Allah, au tribunal, c'était en octobre 2017. S'il y a un procès, à mon avis, l'issue de cette histoire sera écrite 4 ans après mon premier dépôt de plainte. Ce qui est énorme. Je ne m'attendais pas à ça. Je savais que la justice était lente, mais pour moi, c'était une affaire simple, puisque toutes les traces sont là, le dossier, il suffit de le lire, ça prend 10 minutes, pardon, peut-être pas 10 minutes de lire le dossier, mais d'éplucher les pièces du dossier, ça prend vraiment, ça prend pas... ça prend pas très longtemps, quoi. Parce qu'en plus, moi, j'ai sélectionné un best-of, hein, pour ne pas... pour ne pas alourdir inutilement la lecture, il faut que ça reste agréable quand même pour le magistrat qui va le consulter, ce dossier.
Est-ce que tu as refait des phrases? Est-ce que tu as demandé à quelqu'un d'en faire? Peut-être que ça avait fait une BD, ça aurait peut-être été plus simple à lire, tout.
Ouais. Et donc, voilà, c'est tellement lent que la partie adverse a tout le loisir d'organiser ce dont on parle que très rarement, hein, dans les médias et dans les films, c'est les représailles. Et là, il faut quand même être méga costaud, quoi. Et moi, je ne parle entre guillemets de harcèlement. Et je me dis que les personnes qui vont déposer plainte pour des faits de viol et qui doivent subir ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne le subissent pas. La lenteur de la justice et la possibilité pour le prévenu de s'organiser, pour contre-attaquer, pour traîner sa victime dans la boue, c'est terrible. C'est terrible. Donc, vraiment, cette expérience de la justice, qui n'est pas encore terminée, me fait prendre conscience que ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Et que la justice, est effectivement, manque de moyens, manque d'effectifs, et donc manque de tout ce qui est important pour toi en tant que victime, c'est-à-dire rapidité, humanité...
Se sentir protégé.
Ah oui.
Est-ce que c'est possible d'arriver à une autre conclusion que la justice s'en bat les couilles de ce genre de cas?
En tout cas, la justice
c'était
dit...
la chose la plus importante.
Tout à fait.
Je veux dire, quand ils décident qu'il y a quelque chose qui est grave, il y a des conséquences. Est-ce que c'est du manque de moyens, de l'incompétence, une hiérarchisation des problèmes ou ça ne nous touche pas, on s'en fout, on pense que c'est des gens qui se battent par blog interposé?
Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que pas mal de juges, de magistrats estiment que c'est des enfantillages et ne voient pas très bien où est le problème parce qu'eux-mêmes ne le vivent pas. Mais je pense qu'il y a quand même une petite révolution, enfin pas une révolution, mais je pense dans l'entourage des juges aujourd'hui, des magistrats, il y a plein de gens qui sont quand même touchés par la problématique. Donc tôt ou tard, ça va être à l'ordre du jour. Mais je pense réellement que la justice manque de moyens. Enfin, j'ai été à une audience l'autre jour, c'était la première fois que j'entrais dans un tribunal, et franchement, ça fait pas rêver, quoi. C'est du, enfin, le palais de justice de Bruxelles à l'intérieur. Enfin, le bâtiment est très beau, mais les salles, c'est, enfin, t'as l'impression qu'on est en Roumanie sous Ceausescu. Il fait froid, c'est moche. Les murs sont jaunis par un mélange de temps, de clopes, de misère humaine. C'est vraiment. Tu vois à quel point la justice est fauchée, quoi. Et donc.
Parce que tu vois la différence. J'ai été pour un papier pour ma nationalité et, ouais. Et de l'extérieur, incroyable. Les ouais. couloirs sont excessivement imposants.
Ouais.
Et puis effectivement, tu roules et on dirait en fait un mauvais décor de cinéma. Tu vois qu'ils ont les budgets pour avoir tourné l'establishing shot,
ouais,
mais pas pour avoir la salle. Quoi.
Ouais, ouais. On a façadisé des pièces dégueulasses. ouais, non, mais apparemment, ce serait en train de devenir une priorité au parquet, mais ce n'est pas parce que le parquet décide qu'il faut s'y intéresser que les choses vont se faire rapidement. Mais il y a des choses quand même qui sont assez intéressantes. Enfin, par exemple, cet été, mon numéro de téléphone, ainsi que les coordonnées de plein d'autres femmes journalistes et apparemment de plein d'autres femmes tout court, ont été postées sur un site d'annonces libertines. Et donc, on nous a appelés pour nous faire des propositions indécentes. Voilà. Ce qui est vraiment une paille et pas très important par rapport à mon long parcours de Arslated.
Je peux te poser une question?
Ouais.
Quand les gens se rendaient compte qu'il y avait un mauvais numéro, comment ils réagissaient?
En fait, je ne sais pas, parce que c'est moi qui leur disais, ça fait un mauvais numéro. Et après, j'ai essayé désespérément de savoir comment ils avaient eu mon numéro, afin de me rendre compte qu'en fait, on était plein dans la situation, et ils n'ont jamais voulu me répondre. Donc, je pense qu'ils avaient peut-être un peu honte, je n'en sais rien. Okay. Donc j'ai filé leur message et leur numéro à la police. Oui, oui, oui. Mais il y en a qui l'ont fait, hein. J'ai des copines qui ont eu ce problème aussi, et les mecs ont dit: ah, désolé, je cherchais une partouze, je croyais que c'était un... Enfin voilà, j'ai vu ton annonce, ah bon, désolé pour toi, c'était pas une vraie annonce, allez, bonne continuation. Donc il y en avait qui étaient très décontractés par rapport à ça, et tant mieux. C'est comme ça qu'elles ont su que c'était un site de cul. Et en fait, le mec a été retrouvé hyper vite par la police. Et il y a eu un article sur le site de la RTBF. Il a même été, il a même dormi, je crois, quelques nuits en prison. Et là, what? Enfin, ok.
Oui, toi.
C'est très surprenant, ça, quand même. Je suis très surprise. Je ne sais qu'en penser, parce que c'est pas que je trouve pas ça grave. C'est extrêmement désagréable et c'est vraiment. C'est vilain, quoi. C'est un pauvre con, quoi. Pauvre con. T'as que ça à foutre, aller mettre des numéros de téléphone de nana parce que tu les trouves sur leur site professionnel avec lequel elles essaient péniblement de bosser, de trouver des clients, et d'aller foutre ça sur des annonces de cul. Mais pauvre tâche, quoi. Donc clairement.
On dirait des gens qui mettaient des numéros de téléphone de meufs dans les toilettes des.
Mais oui, c'est ça.
Des arrêts d'autoroute dans les années 80-90. Dans tous les films, il y a des graffitis avec une telle fait tel truc,
oui,
sur numéro de téléphone.
Très fort. mais donc,
très fou.
Vraiment pauvre mec, pauvre con. Et clairement, il doit être puni. Enfin, ou en tout cas, la société doit dire que ça va pas. Mais de là, le foutre en prison, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite disproportion. Non pas par rapport aux faits commis, mais par rapport à tout le reste où il ne se passe absolument rien. Où Marie Laguerre a encore. Qui est une étudiante française, en fait, qui a été frappée dans la rue par un mec à 2 ans et dont la vidéo de cette agression a fait le tour du monde. Et depuis, elle est cyberharcelée, menacée de viol, menacée de mort. Oui, ça ne semble avoir aucune logique et ça n'en a sans doute pas. Mais donc, cette nana est victime d'un mec qui la frappe. Et la vidéo de la caméra de surveillance faisant le tour du monde, cette fille a accédé à une forme de notoriété dont elle se serait évidemment bien passée. Et depuis, elle est menacée de mort et menacée de viol. Et elle a...
Excuse-moi, mais...
Oui, je sais. Mais... Il n'y a jamais de raison. Il n'y a jamais de raison.
Oui, évidemment.
Natacha Kampusch est menacée de mort et de viol en permanence. Pourquoi?
Non.
Non. Quand tu apparais à la connaissance du public et que tu es une femme ou une personne racisée, ou, enfin, voilà, c'est toujours la même chose. T'as ce type de réflexe de prédation qui se met en place. Et donc, la fille a fait un tweet hier, je pense, en disant, ben voilà, ça fait 2 ans. Qu'on me menace de mort, de viol, j'ai déposé plainte et il ne se passe rien. Pas de nouvelles de la justice, pas de nouvelles de ma plainte, rien. Voilà. Et
aucune imputabilité.
Mais je sais pas, parce qu'en fait, il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Tu as du pseudonymat, mais tu as toujours dû donner tes coordonnées. Tu es retraçable. S'il y avait une volonté politique et une volonté de la part des plateformes de faire le ménage, bah, y aurait plus aucun problème. Il y a rien de plus facile, entre guillemets, à tracer que l'identité de quelqu'un via les comptes qui s'est créé, quoi. Si seulement on veut bien intervenir. Mais ce serait commercialement se tirer une balle dans le pied, évidemment, que ça d'intervenir là-dessus, pour toute une série de raisons, et notamment parce que les contenus de haine suscitent de l'intérêt, du trafic, des réponses, de l'engagement d'une communauté. Mais c'est vrai, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc, cette Marie Laguerre qui s'en prend, mais plein la tronche, d'une manière ignoble depuis des années, il ne se passe rien. Et là, t'as un pauvre tâche qui met des numéros de téléphone de gonzesse sur des sites de cul et il dort en prison. Alors, je ne m'en plains pas, hein, mais je me demande d'où vient cette manière spectaculaire de traiter un dossier et cette manière spectaculairement absente de traiter les autres, quoi.
J'aurais l'air complètement complotiste, mais est-ce que tu crois qu'il pourrait avoir un lien avec le fait que la personne qui l'a jugé connaît une personne qui est victime de cette personne?
Mais je me suis posé la question, évidemment, et j'ai posé la question à mon avocate, elle m'a dit non. Bon, alors non, d'accord, mais...
Ouais, ce qui est un non, ce qui est peut-être la manière de dire non la moins convaincante.
Non, elle avait vraiment l'air de me trouver un peu complotiste, en effet, mais... Donc je sais pas, je n'en sais pas plus. En fait, sur ce dossier.
Le fait qu'on dise la justice, mais que ce soit des individus aussi, j'imagine que ça change énormément de choses, dépendamment sur qui tu tombes, comme toi dans les commissariats, dépendamment sur qui tu tombes quand tu poses.
Mais oui, c'est jamais que des gens où il y a autant de cons et d'incompétents qu'ailleurs. Ça, c'est pas la belle institution de la justice. Bah non, c'est des mecs avec leur biais de confirmation comme tout le monde, avec leur fatigue comme tout le monde, avec leur connerie comme tout le monde, leurs préjugés comme tout le monde. Enfin voilà, la justice, elle est vraiment à l'image de la société, même peut-être un peu en retard, me semble-t-il, sur elle. Alors, je ne la connais pas très bien, la justice, puisque je n'ai jamais qu'une affaire sur le feu, mais...
Patience! Elle va durer des années encore, apparemment.
Ouais, j'en suis ravie.
Est-ce que tu conseillerais aux gens de porter plainte aujourd'hui? Ou s'ils le font, si elles le font, comment... Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Tu dis que toi-même, tu te conseillerais peut-être, en retournant dans le passé, de ne pas le faire. Ouais. Avec ce que tu as raconté, ça donne quand même vachement très peu envie. Est-ce qu'il y a des manières peut-être un peu plus safe de le faire?
Ben, en fait, si tout le monde déposait plainte... Alors là, oui. Enfin, en fait, il faut... Enfin, je veux dire, si quelqu'un d'autre que moi, avant moi, avait déposé plainte contre le même individu, j'en serais probablement pas là aujourd'hui. Donc, porter plainte protège quand même un peu les autres.
Cette horrible culpabilité des gens qui se sont fait agresser et qui se disent, si je vais pas porter plainte, d'autres vont se faire agresser, ça va être de ma faute.
Mais en fait, je comprends maintenant les gens qui déposent pas de plainte. Comme je ne l'avais jamais fait auparavant, je ne comprenais pas les gens qui déposaient pas de plainte. Mais maintenant que j'en ai fait l'expérience, je les comprends tout à fait et je ne les blâmerai certainement pas. C'est vrai que ce serait bien pour un monde en paix, un monde meilleur, que tout le monde dépose plainte et que personne ne laisse passer des comportements délictueux, en particulier quand ils ont des répercussions sur la collectivité. Mais je crois
Est-ce que
vraiment...
ça serait plus simple s'il y avait une journée... Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Tu t'es fait avoir.
J'en ai profité pour boire une gorgée d'eau parce que je pensais que t'étais lancé dans un long discours et je ne sais plus ce que j'allais dire en plus, donc vas-y.
Tu disais que c'était, ça serait plus simple effectivement si tout le monde le faisait, mais tu comprends pourquoi ils le font pas, et je me demandais si ça serait pas facilitant parce que parfois, ça fait du bien de se sentir en nombre, de sentir justement sur les réseaux sociaux quand les gens dénoncent, de dire ok putain, je suis pas la seule, c'est tout le temps, partout. Voilà. Est-ce que s'il y avait...
Et en fait, pardon, je reviens en arrière, mais c'est que je dis si quelqu'un d'autre avait déposé plainte avant moi, j'en serais sans doute pas là aujourd'hui, mais en fait, plusieurs personnes ont déjà déposé plainte contre le même individu. C'est juste qu'il s'est juste rien passé, que ça a été classé sans suite. Donc non, je retire ce que j'ai dit, et peut-être que... Non, je pense que si tu déposes plainte, c'est que vraiment t'es arrivé à un stade où tu sais pas quoi faire d'autre, mais il faut absolument que tu fasses quelque chose. Moi, j'allais pas aller casser la gueule de ce mec, pour différentes raisons, notamment je serais absolument ridicule en me battant. Enfin, je suis pas sûre qu'il serait beaucoup plus glorieux que moi, mais je sais pas, ça devient assez viscéral, quoi. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu réagisses, tu peux pas rester là sans rien faire. Alors là, tu le fais. Et si tu sens que t'as l'énergie, parce qu'en fait, il faut de l'énergie, parce que ça devient après ton histoire. C'est un truc dont tu n'arrives pas à sortir, puisque moi, j'aurais tourné la page bien avant. Si la justice traînait pas en longueur comme ça, qu'il n'y avait pas eu des tas d'entourloupes aussi, des avocats de la partie adverse pour faire durer le plaisir, évidemment. Hein. Mon chien a mangé mon devoir, j'ai perdu un document dans le déménagement. déménagement, ok, séance à journée, on se revoit dans 8 mois. Voilà, c'est ce genre de truc qui se passe tout le temps. Donc, je pense que si on est très solide psychologiquement, bien entouré, et qu'on est vraiment plus que las d'une situation, alors il n'y a pas de raison. Et qu'on a un peu de pognon, ça coûte quand même de l'argent, surtout si on fait une constitution de partie civile, il faut déposer plainte. Par contre, si on est fatigué, si on n'a pas envie, si on est mal entouré, si on est tout seul, si... Non, alors il faut trouver d'autres moyens. Si c'est une situation de harcèlement, je pense que, hélas, les ressources sont essentiellement dans une forme de lâcher prise qui, hélas, rejoint un peu les injonctions de la société. Penser à autre chose. Bon, c'est difficile de penser à autre chose quand c'est ta réalité, quand t'y ramènes tout le temps et que t'arrives pas à en sortir parce que H24, on parle de toi pour dire des horreurs sur toi, des mensonges, des choses hyper sexistes et tout. Mais j'avais été consulter un psychiatre pour une prescription qui me disait que les victimes de harcèlement, enfin les cibles de harcèlement, il fallait les traiter comme des victimes de guerre pendant la guerre.
Holy cow!
Ouais, parce que c'est des situations de siège et le siège n'est jamais terminé, puisque par essence, le harcèlement, ça se poursuit. C'est un acharnement qui. Ce n'est pas un événement isolé du passé dont on peut sortir avec une bonne thérapie. Ce n'est pas un accident de bagnole dont on peut soigner le traumatisme avec un peu de MDR. Parce qu'a priori, tu n'auras pas 2 accidents de bagnole de la même gravité cette année. Tu
aurais préféré qu'on te casse la gueule une fois, quoi.
Ah ben clairement. Non, clairement. Ici, c'est une nasse, quoi. Plus tu t'en débats, plus elle se referme autour, enfin, le piège se referme autour de toi. C'est très vicieux. Et c'est aussi pour ça que je trouvais que c'était un matériau pour écrire un roman, quoi. Le fait d'être piégé comme un chat pris dans les phares d'une voiture. Au moins, j'aurais fait un roman d'une histoire de harcèlement. Et j'aime bien mon roman, je suis contente de l'avoir écrit. Donc, au moins, ça a eu ça de positif. Et puis, je reçois, faut le dire aussi, je reçois quand même pas mal de force de la part, surtout de jeunes femmes, et même de jeunes hommes. Enfin, en tout cas... Je crois que les vieux, je les ai perdus, là. Tout ce qui est... tous les boomers, ils sont là. Oh, elle fait ça diva parce qu'elle n'a pas supporté de blagues. Je pense que c'est une génération à laquelle je... Enfin, voilà, je les laisse. Pour moi, elle est perdue. En tout cas, elle m'a perdue. Je ne m'adresse plus à eux. Ils ne s'adressent plus à moi. C'est très bien comme ça. À part quelques exceptions que j'adore. Hein. Je veux dire, j'ai des amis de 60 ans que j'aime beaucoup. Peu nombreux, mais ils existent. Et ils s'inscrivent en faux par rapport à aux dérives de leur génération. Mais les gens de 25 ans aujourd'hui, ils sont à fond. Enfin, ils ne laisseraient jamais passer. Ils ne se laisseraient jamais traiter comme nous, on a accepté d'être traités. Jamais, jamais. Et donc, ils sont super soutenants. Ils donnent de la force à fond. Et ça, c'est super gay. Clairement, j'ai trouvé des soutiens, des super soutiens. Super chouette, super, ça fait du bien, vraiment.
Est-ce que tu as eu peur quand tu as sorti ton livre qui parlait de ton histoire? Tu dis, plus tu te débats, plus le piège se referme. Est-ce que tu t'es dit, c'est ma manière de libérer, d'imposer à tout le monde qui veut pas écouter ma vision de l'histoire? Ou c'est genre, putain, je vais encore m'en prendre plein la mouille?
La quoi?
La mouille, c'est une expression dans Kaamelott, il faut dire la tronche. Ça me fait rire. En plein dans sa mouille.
D'accord. Je n'ai pas vu Kaamelott, mais tu viens de le remarquer. J'y ai pensé et en même temps, je me disais... J'ai l'impression que... ne peut pas vraiment m'arriver pire, en fait.
Oh mon Dieu.
Mais c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir quand même... un peu expérimenté pas mal des tragédies qui s'offrent dans l'expérience humaine et des situations bizarres, absurdes, douloureuses, tout ça. En matière de harcèlement, je pense que j'ai vraiment exploré toute la palette et je n'en suis pas morte. J'en suis abîmée, c'est certain, mais je suis assez résistante quand même. Donc je me suis dit, bon, un peu plus, un peu moins... Allons-y, quoi.
Aussi bien faire quelque chose que j'aime dans une situation
qui,
de toute façon, est de la
quelque chose
merde.
De créatif et qui me semblait être une bonne idée pour tout le monde, quoi. D'avoir un peu les yeux... Enfin, que le sujet soit à l'ordre du jour, je pense que c'est de toute façon pas une mauvaise idée. Et puisque personne n'avait l'air de vouloir s'atteler à la tâche, eh ben voilà, je l'ai fait.
Est-ce que tu penses que la personne qui t'a harcelé est convaincue qu'elle est innocente ou est-ce que tu crois qu'elle ressent du plaisir à savoir ce qu'elle fait?
Je n'en ai aucune idée. Je me suis posé la question dans le passé, mais j'ai arrêté de vouloir comprendre. Je trouve que c'est une situation incompréhensible, une personne incompréhensible, et en fait, ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'il en jouit, est-ce qu'il est malheureux. Parce que plein de gens qui me disent « Ouais, mais il a dû être très malheureux quand il était un petit garçon, c'est certainement quelqu'un qui n'a pas reçu assez d'amour. » Mais déjà, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment rien, quoi. Et je suis pas sûre, en fait. Moi, je crois qu'il y a des natures comme ça. Je crois qu'il y a des gens qui sont juste des psychopathes et qu'il faut arrêter d'essayer de plaquer sur eux des grilles d'analyse de la nature humaine comme on le ferait sur les autres. C'est juste des... Voilà. Il faut arrêter d'essayer de psychologiser les psychopathes, je crois.
Si le juge déclare non coupable, est-ce que ça te permet quand même de tourner une page ou est-ce que à ce moment-là, tu es coincé dans un moment?
Je n'en sais rien, évidemment. Vu d'ici, je me dis que ce serait beaucoup trop intolérable et que je ne pourrais pas le supporter. En même temps, quel que soit le point final, moi, j'aimerais bien vraiment passer à autre chose, quoi. Parce que c'est quand même très lourd. Donc... Je sais pas. Je, franchement, moi, je ne sais rien prédire de mes réactions et de mes émotions, donc je ne suis pas dans la situation. On verra bien.
Moi, j'ai essayé souvent de prédire en disant, mais, tu regardes un film, tu dis, mais moi, ça m'arrivait, je réagirais comme ça.
Ouais.
Et quand tu te rends compte que t'es zéro en 100 000...
Mais oui, c'est ça. Le jour où on me trompe, je le quitte.
Ah, oui.
Le jour où il regarde mes messages, c'est fini. Tu parles.
Oui.
Je ne ferai pas comme tous les autres. Si.
C'est pourquoi ouais. Tout le monde fait comme tout le monde? Parce que tout le monde est comme tout le monde.
Le monde, mais oui. Même toi, qui te crois si unique. C'est pas toi, hein? Je ne te parle pas à toi. C'est à toi, majestatif.
Ah oui, totalement, parce que moi, je suis unique, vraiment. Je suis l'exception.
Aussi, bien sûr.
Ben oui, évidemment. Ouais. J'aime bien le nom du spectacle de Freddy Tougo pour ça. Unique comme tout le monde.
Mais oui, c'est vraiment... ça.
C'est très joli. Des choses qu'on entend souvent quand les gens portent plainte, c'est « elle fait ça pour se faire remarquer ».
Oui, mais étrangement, on ne dit jamais ça quand c'est une plainte pour un cambriolage. On ne dit jamais « tu es un peu exagéré ton cambriolage » ou « tu es sûr que tu ne fais pas ça pour faire ton intéressant ». C'est toujours quand c'est des histoires de violences infligées aux femmes, tu vois, les agressions sexuelles, du harcèlement, c'est « oh, elle fait son intéressante, elle fait ça pour l'argent, elle fait ça pour se faire de la gloriole ». Mais oui, mais bien sûr, tout le monde veut se faire un nom à travers son viol ou son harcèlement ou des insultes qu'il reçoit. Tout le monde veut faire carrière et capitaliser sur le fait qu'on l'a traité de grosse pute pendant des années. Enfin, voilà.
C'est dingue. Et j'ai vu un message passer. Désolé, je me souviens plus de l'auteur, mais c'était « Pi, est-ce que quelqu'un qui est capable de nommer une des 26 victimes de Bill Cosby? »
Oui, ces fameuses célébrités. Ces chercheuses d'or, croqueuses de diamants.
Qui sont quand même retrouvées sur la première page du, je ne sais pas si c'était le Times ou un magazine comme ça, donc je veux dire, elles ont été très publicisées.
Ouais.
Et un prénom. Non? Rien?
Oui, et les victimes de Polanski, on arrive à peine à retenir leur nom. En 30 ans quand même, tu vois, ça fait... Ouais. C'est pas très rentable en fait, hein, pour devenir célèbre et pour se faire du pognon.
Et si vous voulez voir pour qui c'est rentable, la personne dont tout le monde se souvient du nom, c'est Monica Lewinsky. Et
ouais.
Si vous voulez aller voir comment ça a été sa vie après, ouais. Il y a des articles, des documentaires, des vidéos absolument fascinantes. Spoiler, ce ne sont pas des comédies.
Ouais.
Et aujourd'hui,
Monica Lewinsky, alors j'étais très jeune, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu une relation consentie. Hein.
Oui, mais c'est après, elle a été
traînée
dans
la boue.
Boue
ouais.
Parce que genre, c'est une stagiaire qui accepte d'avoir une relation avec le président. Et puis finalement, elle est devenue une punchline, comme Paris Hilton. Ouais. J'imagine que tu as vu le documentaire de This is Paris.
Non.
Sur YouTube, il est fantastique. Tu vas adorer. Est-ce que tu comprends les gens qui se plaignent du fait que certaines personnes dénoncent sur les réseaux sociaux plutôt que dans la justice, ou tu dis pour avoir vécu les deux?
Enfin, non. Enfin, moi, je trouve que MeToo, c'est formidable et qu'il y a un changement de paradigme essentiel et qu'on attendait toutes grâce à MeToo. Et les gens disent oui, mais attention, les dérives, ça fait peur. Ça me fait un peu penser. Enfin, c'est marrant parce que ça a l'air d'être un peu la même posture que ceux qui disent ah, ben si t'as rien à craindre de la police, alors pourquoi est-ce que tu pars. Enfin, voilà, ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à craindre de la police. Enfin, tout d'un coup, ils sont là ouais, c'est dégueulasse, on nous traîne, on risque gros. Ben, je sais pas, si t'as rien à te reprocher, tu risques rien. C'est bizarre que tu saches pas faire la translation.
Et sans vouloir être l'avocat du diable, j'aimerais qu'on fasse la liste de tous les gens dont la carrière était brisée alors qu'ils n'avaient rien fait.
Mais Polanski, attends, il n'a eu que 12 nominations au César et une statuette du meilleur réalisateur. Mais non, mais c'est des conneries tout ça. Alors clairement, il doit y avoir l'un ou l'autre gars indûment accusé. Mais il y a, je pense que de fausses accusations de viol, de violences sexuelles, c'est de l'ordre de 1 ou 2%. Je pense qu'il y a plus, mille fois plus d'arnaques à l'assurance incendie que de fausses accusations d'inconduite sexuelle et d'agression sexuelle. C'est une espèce de cliché, de stéréotype lié au peu de crédit qu'on peut apporter à la parole des femmes qui se perpétue dans ce type de réaction. Et même moi, j'ai ça. Enfin, moi, je me dis féministe déconstruite et tout, mais quand il y a quelqu'un qui vient me dire « mon mec me bat », je me dis « oh tiens, est-ce qu'elle fait pas, est-ce qu'elle invente pas un peu, est-ce qu'elle exagère pas, qu'est-ce que je peux la croire ?» Enfin voilà, je suis encore empêtrée dans des réflexes nuls, nullissimes, mais je me soigne, hein, j'essaie de me soigner.
Oui, parce que ça se continue d'évoluer, donc peu importe si tu te soignes ou pas, ça va continuer d'avancer, donc ouais. Si tu fais rien, mais tu recules. Ouais. Et je trouve que dans cette logique-là, il y a vraiment, encore une fois, le privilège de pouvoir bénéficier de la neutralité qui est en fait inexistante. Le fait de dire « elle ne devrait pas porter plainte parce qu'il y a une personne sur, genre deux personnes sur cinq sont accusées à tort, c'est trop », fait « oui, mais c'est parce que c'est quoi l'alternative ?» En ce moment, t'en as quand même…
C'est ça.
C'est quoi, une personne sur trois dans le monde, la dernière statistique, victime de violence conjugale? Oui. Une femme sur trois, pardon. Une sur trois? Je sais pas si tu sais compter jusqu'à trois, mais c'est quand même vachement beaucoup.
Oui, c'est
une sur trois.
Mais de toute façon, quoi que tu fasses, tu as tort. Tu dénonces une situation sur les réseaux sociaux, tu as tort, tribunal populaire, c'est pas bien, faut aller devant la justice. Tu vas devant la justice, tu mens, on te dit que tu fais ton intéressant, que tu fais ça pour l'argent, le pouvoir, je ne sais rien. Tu ne fais rien, tu es lâche, alors ça n'a pas existé. Si tu ne fais rien, si tu ne te débats pas, c'est que tu l'as bien cherché, que ça, en fait, finalement, ça t'arrange. Donc, quoi que tu fasses, que tu réagisses, que tu ne réagisses pas, que tu ailles en justice, que tu ailles sur les réseaux sociaux, le résultat est quand même qu'on t'emmerde. Donc, autant faire ce que tu sens et ce qui te fait du bien. Voilà, tant pis. Tant pis pour le reste, quoi.
Trevor Noah disait pendant les Black Lives Matter, il dit c'est fou parce que on manifeste jamais de la bonne façon. Et tu sais qui nous dit qu'on manifeste jamais de la bonne façon, soit trop fort, soit pas assez, soit en groupe, soit pas au bon moment. Il dit bizarrement c'est toujours le pouvoir en place.
Ouais. Ouais.
Le même qui dit genre mais vous devriez être plus comme Martin Luther King, vous savez celui qu'on a assassiné.
Oui, c'est génial. Et je vois Gisèle Halimi quand elle décède. Tous les mecs qui disent ouais les féministes aujourd'hui vous devriez prendre de la graine sur Gisèle Halimi, ça c'était une vraie féministe et pas comme vous, elle aurait pas lutté pour l'écriture inclusive, pour la féminisation des noms de rue, merci madame, vous êtes une grande dame et tout. Mais Gisèle Halimi dans les années 70, quand elle sortait du tribunal, elle se faisait taper et cracher dessus par ces mêmes mecs qui aujourd'hui la portent au pinacle, quoi. Donc il y a un truc de si tu te déranges, en fait, ces mecs-là, quelque part, je crois que t'es un peu quand même dans le bon, quoi. Enfin,
oui, mais en fait, toutes les révolutions qu'il y a eu avant, elles étaient OK, mais maintenant, ça va trop loin. Guess what? Elles avaient toutes un point en commun. Au moment où elles étaient faites, toutes les autres d'avant, ça allait, mais celle-là, ça allait
mais
trop
oui,
loin.
Mais oui, c'est exactement quand on dit, la même chose.
Les féministes vont trop loin. Fait, on parle des suffragettes. C'est les suffragettes, quoi? Ou je me souviens plus si c'était celle-là ou d'autres qui... C'était faire refuser l'entrée à un bâtiment, donc avait mis le feu au bâtiment.
Mais oui, on est tellement soft aujourd'hui. Mais ils se rendent pas compte, quoi. Parce qu'ils n'ont pas de mémoire, parce que l'histoire n'a pas de mémoire. Mais il y a une série qui s'appelle Mrs. America, avec Kate Blanchett notamment, et Rose Byrne qui est super. Rose Byrne interprète Gloria Steinem. Et c'est sur la lutte féministe dans les années 70, début des années 80 aux États-Unis, le mouvement de libération des femmes. Et ouais, elles étaient vocales, elles étaient radicales, elles étaient... Alors, c'est à la fois très déprimant parce que tu vois qu'aujourd'hui, on a toujours les mêmes discussions et qu'on n'avance pas beaucoup, mais... Enfin, ouais, elles avaient un courage, une pugnacité et, et une radicalité qui, aujourd'hui, ferait hurler tous ceux qui croient que nous sommes des féminazies coupeuses de couilles parce qu'on aimerait bien qu'on dise « autrice » au lieu de dire « auteur » sans « e » à la fin.
Oui. Je ne comprends pas. Comprends moi pas ce qu'ils ont à perdre. Comprends pas...
Moi non plus. Mais moi, de toute façon, quand j'ai compris qu'il y avait un vieux monde qui... En sombrant, tentait de nous agripper. Je sais pas, ça m'a détendu quoi, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est les dernières convulsions d'une culture qui est vraiment en train de, qui est vouée à disparaître quoi. Elle se reproduira pas, elle se répliquera pas, ça durera pas. Maintenant, combien de temps on va encore devoir la subir, je sais pas, mais je suis sûre que ce monde va vers la fin quoi, vers sa fin en tout cas.
Ben écoute, je vais te laisser ça comme conclusion, ça me semble plein d'espoir.
Oui, je crois, j'en ai encore.
Merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu as un projet qui arrive. Est-ce que tu as envie d'en parler ou est-ce que c'est encore secret?
Je ne suis même pas sûre de savoir de quoi tu parles. C'est quoi?
Ton documentaire.
Ah oui, bah documentaire. Oui, je fais un documentaire avec Florence Hainaut, ma chère et tendre consoeur. En fait, c'est mon livre... Les yeux rouges racontaient ce que le harcèlement faisait à la personne. Et là, ce que les cyberviolences, en fait, faisaient à la personne. Et là, le documentaire va raconter ce que les cyberviolences font à la société et à la démocratie. Et
vous avez interviewé des gens
ouais, de par le vaste monde, tout à fait. Dont Nadia Dam, Lorraine Bastide, puis des gens qu'on va... laisser secret pour l'instant, parce que ça va être notre gros appôt à téléspectateurs. Et Pauline Armange, qui a écrit un bouquin qui a fait énormément parler de lui, qui s'appelle « Moi, les hommes, je les déteste », et qui est bien évidemment attaquée de manière atroce depuis. Plein de gens super, en fait. Plein de femmes super, et puis des expertes, et des experts aussi, du langage, de la démocratie, de la justice. Voilà, c'est passionnant, c'est des gens passionnants. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est en montage, on est en train de se prendre la tête à mort, parce qu'on n'arrive pas à se délester de la matière, parce que c'est à chaque fois un crève-cœur. On dit, mais non, il faut absolument qu'on parle de l'extrême droite, et du délitement de la société allemande, le Zersetzung. Voilà, c'est assez complexe de monter quand on a surtout des dizaines d'heures de rush comme ça. C'est mon premier documentaire que je montre. Donc on se prend bien la tête et on est bien crevé. Mais c'est super intéressant.
Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de discuter alors que tu n'avais rien à vendre pour le moment, juste pour partager ton histoire et ton expérience. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et Les yeux rouges, disponibles en format de poche. Livre incroyable, j'étais super fan. Ariane, bof, non c'est pas vrai. Et Ariane aussi qui est une déchirante histoire. Ce sont deux livres, je lis pratiquement que des essais maintenant. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à mettre dans les romans. Et dans les deux cas, j'ai réussi à le lire en une journée. Et parce que je trouvais ça fantastique. Et aussi forcément parce que j'étais fier de toi. Et donc j'avais du plaisir à être à chaque fois que je tournais la page, je faisais « Mais c'est malheureusement, mais oui! » Et je sais que ça a toujours été important pour toi, écrire et voir la réalisation, avoir le produit fini dans les mains. C'était un réel plaisir.
Merci
félicitations.
Beaucoup.
Et je termine en disant « Désolé pour tous les conseils de merde que je t'ai donnés quand tu étais victime et au bout de cyberharcèlement. Je me rends compte aujourd'hui que ce que je disais, c'est de la merde et j'essaie de faire mieux aujourd'hui. »
Oh, j'aurais dit la même chose, tu sais. Tout le monde aurait dit la même chose, donc franchement. Nous sommes comme tout le monde, mon cher.
Mais c'est limite, c'est rassurant.
Ouais.
Bye bye, merci.
Merci, salut.